Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Chez nous, maintenant, on tue le matin. Et jusqu'à midi, on le tuait, l'échaudait, le pelait, et le vider et laver les boyaux. On lave les boyaux tout de suite. Et après.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Au bonheur prochain des réveillons familiaux, nous allons contribuer modestement ce matin. Nous allons le faire en nous intéressant à quoi ? En nous intéressant aux animaux de Noël. Car il en existe plusieurs. Ceux d'abord que l'on consomme selon des rituels dont la longue histoire n'est pas aussi futile qu'on pourrait le croire au premier regard. Les comportements collectifs, célébrant la fête de la nativité, ont en effet privilégié depuis des siècles trois animaux spécifiques, à savoir le cochon, composante majeure de toutes les ripailles, le cochon, avec lequel les hommes ont entretenu de très longue date des relations extrêmement ambivalentes, et aussi l'oie, et surtout plus récemment la dinde, qui a envahi les tables aristocratiques en France, en provenance de l'Amérique, dès le XVIe siècle. Mais auparavant, nous allons braquer notre attention sur la crèche et sur deux animaux de statut bien plus marquant, du plus sacré jusqu'au plus féerique, entendez l'âne et le bœuf. Pour découvrir, vous allez le voir, que leur place autour du berceau divin a grandement varié en présence et en portée de siècle en siècle et que ces évolutions renseignent sur les mutations de la foi, telle que celle-ci peut s'exprimer dans la profondeur des adhésions populaires à un christianisme en mouvement. Nul mieux que le grand historien des couleurs, des animaux et des symboliques qu'est Michel Pastoureau, que j'ai souvent convié à ce micro, ne pouvait nous conduire sur les chemins de ces interprétations multiformes. Et pour commencer, un extrait d'un conte de Jules Supervielle, « Le bœuf et l'âne de la crèche », un conte de 1930, interprété en 1948 par la compagnie Renaud Barreau.
D'où viens-tu, bergère, d'où viens-tu?
Je viens de l'étable, de m'y promener. J'ai vu un miracle ce soir arriver.
Qu'as-tu vu, bergère, qu'as-tu vu?
J'ai vu dans la crèche un petit enfant sur la paille fraîche, mis bien tendrement.
Rien de plus, bergère, rien de plus.
Sainte Marie, sa mère, lui fait boire du lait. Saint Joseph, son père, qui tremble de fouet.
Rien de plus, bergère, rien de plus.
Il y a le bœuf et l'âne qui sont par devant. Avec leur haleine, réchauffe l'enfant.
Rien de plus, bergère, rien de plus.
Il y a trois petits anges descendus du ciel, chantant les louanges du Père éternel.
Le bœuf, lui, pense à ses cornes. Il rumine. Souvent, les bœufs font semblant de ruminer alors qu'au fond de leur âme, ils chantent. Il est inquiet. S'il allait donner par mégarde un coup de corne à l'enfant.
Tu ne dois pas trop t'approcher du petit, dit l'âne.
Le bœuf approuve par un silence d'une qualité exceptionnelle. Il sait donner à son mutisme un rythme, des nuances, une ponctuation.
Mais moi, je vais lui offrir mes deux oreilles. Tu comprends, ça remue, ça va dans tous les sens, ça n'a pas d'os, c'est doux au toucher. Ça fait peur et ça rassure tout à la fois. C'est juste ce qu'il faut pour amuser un enfant. Et c'est instructif à son âge.
Ah oui, je comprends, j'ai jamais dit le contraire, je ne suis pas stupide. Mais ne va pas lui mettre un abraire dans la figure,
oh,
tu le tuerais.
Oh, paysan, dit l'âne.
L'âne se tient à gauche de la crèche, le bœuf à droite. Place qu'ils occupaient au moment de la nativité. Et que le bœuf, ami d'un certain protocole, affectionne particulièrement. Immobiles et déférents, ils restent là durant des heures, comme s'ils posaient pour quelque peintre invisible.
Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
C'est un bonheur de vous retrouver ici à ce micro. Vous avez reconnu, j'imagine, les voix de Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault à propos de l'âne et du bœuf autour du divin berceau de la crèche.
Oui, bien sûr, et ça n'est pas récent. Au moment où il parle, c'est une tradition très longue d'accompagner la nativité de ces deux animaux. Mais au fil de l'histoire, il y a tantôt une mise en scène bien accentuée et tantôt, au contraire, une certaine méfiance, voire une disparition, momentanée en tout cas, de ces deux animaux.
Mais c'est cela qu'il faut voir de plus près.
Oui, pour l'historien, ce sont des documents d'histoire culturelle, pas seulement religieuse. Les évangiles, et notamment celui de Luc, qui est le plus bavard sur la nativité et les jours qui ont suivi, ne disent rien, bien sûr, de la présence de ces deux animaux au moment où est né le Sauveur. Luc nous dit simplement que Marie et Joseph ont cherché place dans une auberge qui était pleine et ils n'ont trouvé à se reposer que dans l'étable et que c'est là que est né l'enfant Jésus, dans une crèche, dans une mangeoire.
D'où vient le mot crèche ?
C'est un mot d'origine germanique, kripa, en germanique commun, qui désigne à la fois l'étable et la mangeoire, l'endroit où le bétail s'alimente. Donc on peut être hésitant sur l'interprétation exacte. En tout cas, donc Jésus est né dans un endroit fait pour les animaux. Et ça, les théologiens médiévaux vont s'en souvenir. Ça va poser pas mal de questions.
Donc le mot même de crèche n'est pas d'origine, si je puis dire.
Non, bien sûr.
Il a surgi plus tard.
Il a surgi plus tard, d'autant que le texte des différents livres bibliques, y compris pour le Nouveau Testament, change beaucoup au fil des siècles. Et l'historien doit être attentif, soit aux vocables, soit aux expressions qui ont été retenues entre le grec et le latin, entre le latin et les langues modernes, et plus en amont, entre l'araméen ou l'hébreu et le grec, il y a des variations. Mais bon, il est né dans un endroit qui était fait non pas pour les humains, mais pour les animaux.
L'évangile de Luc est écrit en grec, vers 70-80, et il emploie le mot « phatné », n'est-ce pas, pour qualifier l'endroit où Jésus est né. C'est une mangeoire.
C'est une mangeoire, oui, un endroit où mange le bétail.
Parce qu'il ne pouvait pas avoir de berceau.
Ils sont en voyage, Marie et Joseph. Ils participent à un recensement général qui concerne tout l'Empire romain. Et chacun doit aller se faire inscrire dans la ville où il est né. Donc Joseph et sa famille ont quitté Nazareth, où ils vivaient, pour Bethléem, la ville de David, bien sûr. Mais Joseph, qui est un descendant de David, et on comprend qu'il est né lui aussi à Bethléem, doit se faire enregistrer avec sa femme et même peut-être ses animaux. On en discute au Moyen-Âge et encore à l'époque moderne. Que font ces deux animaux dans la crèche? Est-ce qu'ils sont venus avec Joseph et Marie? Est-ce qu'ils étaient déjà en place quand ils sont entrés dans cette étable? Voilà, les théologiens sont partagés. Certains disent que l'âne, c'est celui qui a porté Marie, laquelle était enceinte. Et le bœuf a suivi le cortège parce que c'est le seul bien que possédait Joseph et qu'il comptait le vendre pour payer les taxes et les droits auxquels il aurait été soumis.
Il est intéressant d'observer donc que le bœuf et l'âne, qui sont pour nous si familiers au moment de Noël, ne surgissent qu'au 5e siècle dans un pseudo-évangile, le pseudo-Matthieu. Je vous donne l'extrait de cet évangile lu sur France Culture le 2 janvier 1999. Très bref extrait.
Deux jours après la naissance du Seigneur, Marie quitta la grotte, entra dans une étable et déposa l'enfant dans une crèche, et le bœuf et l'âne, fléchissant les genoux, adorèrent celui-ci. Alors furent accomplies les paroles du prophète Isaïe disant « Le bœuf a connu son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. » Et ces animaux, tout en l'entourant, l'adoraient sans cesse. Alors furent accomplies les paroles du prophète Habacuc, disant « tu te manifesteras au milieu de deux animaux.
Il y a là référence au prophète que nous connaissons par l'Ancien Testament, Michel Pastoureau.
Oui, au Moyen-Âge et encore à l'époque moderne, on met constamment en relation tel ou tel passage de l'Ancien Testament avec tel ou tel passage du Nouveau Testament. Ce sont des théologies dites typologiques qui pratiquent ce type d'exégèse. Et c'est intéressant de voir que Isaïe est souvent cité. Les commentateurs du Nouveau Testament aiment beaucoup Isaïe. Il y a d'ailleurs deux Isaïe dans l'Ancien Testament, vers première manière et deuxième manière. Ici, c'est le début du livre d'Isaïe qui rappelle que le bœuf obéit à son maître, l'âne reconnaît à qui il doit obéir et le Seigneur, lui, se plaint de ce que son peuple ne lui obéit plus. C'est le début du livre d'Isaïe.
C'est un fait qu'il y a l'âne et le bœuf chez Isaïe.
Oui, qui sont expressément mentionnés dans l'Ancien Testament. Donc,
alors que Habacuc ne parle que de deux animaux.
Deux animaux. Un sauveur naîtra entre deux animaux, mais il ne précise pas quelle espèce. Ce qui est intéressant, c'est de noter donc que c'est un texte tardif et apocryphe par rapport aux évangiles canoniques qui parle pour la première fois du bœuf et de l'âne, l'évangile du pseudo-Matthieu. Il est repris par d'autres textes non canoniques. On se demande d'ailleurs si les images n'ont pas précédé les textes. Est-ce qu'il n'y a pas sur certains sarcophages de la Rome christianisée déjà la représentation de la nativité avec le bœuf et l'âne? Mais souvent, ces images sculptées sont difficiles à dater. Est-ce qu'on est au IVe siècle ou est-ce qu'on est plus tard? En tout cas, à partir de l'époque carolingienne, textes et images sont d'accord. Lorsque le sauveur est né dans une étable, un bœuf et un âne l'entouraient et le réchauffaient de son souffle. C'est une idée qui va traverser les siècles.
Alors, il faut voir qu'il y a des interprétations très variées pour tâcher de comprendre l'émergence de ces deux animaux autour du Christ dans les représentations de la nativité. Il y a des interprétations matérielles et d'autres qui sont franchement théologiques.
Oui, il y a donc un effort pour comprendre de manière presque positiviste ce que ces deux animaux faisaient là. Donc l'âne portait Marie enceinte et le bœuf suivait le cortège pour être vendu et payer les droits que Joseph devait acquitter. Mais quelquefois, heureusement, les théologiens voient plus haut, s'interrogent même parfois très profondément sur les rapports entre le Christ et les animaux et sur la place du bestiaire au sein de la religion chrétienne. Au Moyen-Âge et encore au début de l'époque moderne, il y a deux courants qui s'opposent. Il y a un courant qui conduit à opposer constamment l'homme et l'animal. Il ne faut pas confondre l'homme et l'animal. L'homme a été fait à l'image de Dieu. L'animal, c'est une créature imparfaite, impure même, disent certains auteurs, qui est mise au service des êtres humains. Confondre les deux, c'est un péché, comme est un péché le fait de se déguiser en animal. Les prélats, les théologiens répètent et répètent et répètent, probablement parce qu'ils ne sont pas écoutés, cette interdiction de se déguiser en animal, qui est un grand péché.
Et en même temps, il y a une véritable communauté des êtres vivants, une parenté. On voit se rejoindre un courant aristotélicien et un courant paulinien. Aristote d'un côté, Saint Paul de l'autre. Saint Paul qui dit dans son épître aux Romains, « Si les créatures ont été assujetties, ce fut avec l'espérance d'être un jour, elles aussi, libérées de la servitude et de la corruption, afin d'entrer librement dans la gloire des enfants de Dieu. »
Voilà, ça c'est le deuxième courant qui est un petit peu moins dominant, mais qui en effet semble mettre en avant l'idée d'une communauté des êtres vivants, donc une idée héritée d'Aristote, relayée par saint Paul. Ces versets de l'Épître aux Romains ont été très souvent commentés au Moyen-Âge, et les théologiens se demandent, est-ce que Jésus est venu aussi sauver les animaux, comme semble le dire saint Paul? Et puis ça va plus loin. Est-ce qu'ils ressuscitent après la mort? Est-ce qu'ils vont dans un paradis ou un enfer, le même que pour les humains, ou un enfer et un paradis spéciaux pour animaux ou pour chaque espèce animale? On en débat à l'Université de Paris en plein XIIIe siècle. Quel est le sort des animaux après la mort?
Est-ce qu'il y a un purgatoire des animaux?
Alors, l'idée d'un purgatoire pour les animaux, je ne l'ai jamais rencontrée, mais d'un paradis et d'un enfer, oui. On se demande, est-ce qu'ils ont compris ce qu'était le bien et le mal? Est-ce qu'ils sont responsables de leurs actes? Et le fait qu'il y ait des procès faits à certains animaux, pas à tous, semble montrer que pour le Moyen-Âge et le début de l'époque moderne, on estime qu'en effet, les animaux supérieurs sont capables de comprendre ce qu'est le bien et le mal. Donc on peut les conduire au tribunal.
On a pendu des cochons ?
On a pendu énormément de cochons. Le plus souvent, c'est le cochon qui est conduit au tribunal parce qu'il a occasionné des accidents, infanticides parfois, piller une boutique, dévaster un jardin. Bref, ce sont des questions qui ne sont pas seulement anecdotiques, mais qui vont loin. Est-ce que le Christ est venu sauver toutes les créatures, comme le dit saint Paul ? Et certains théologiens répondent par une phrase qui nous semble amusante aujourd'hui, mais qui est très très importante pour la théologie médiévale. Oui, il est venu sauver aussi les animaux. La preuve, c'est qu'il est né dans une étable.
Je vois que, d'un point de vue plus théologique que concret, certains ont vu ces deux animaux comme des préfigures des deux larrons qui entoureront le Christ plus tard.
Oui, c'est toute une théologie des 15e et même 16e siècle qui s'interroge. Et alors le problème est de savoir quel animal évoque le bon larron, quel animal évoque le mauvais larron. Est-ce que les deux animaux ont le même statut ou est-ce qu'il y en a un qui est plutôt pris en mauvaise part et l'autre en bonne part ?
C'est le plus souvent l'âne, n'est-ce pas, qui est associé au mauvais larron ?
Oui, au mauvais larron. Et quand on évoque l'évangélisation des peuples, l'âne est plutôt associé à la synagogue, au peuple juif, qui, pour les théologiens chrétiens, n'a pas reconnu le Messie, s'est obstiné à attendre un autre Messie. Tandis que le bœuf, ce serait le bon larron et l'animal pris positivement parce que c'est un animal de sacrifice dans les religions anciennes, comme le Christ s'est sacrifié sur la croix.
Ce sont les nations païennes qui sont incarnées par l'âne ?
Alors ce sont plutôt les nations païennes incarnées par le bœuf. Et en effet, au moment où tout cela apparaît, le christianisme à ses débuts a pour rival la religion de Mithra, le mithraïsme, une religion qui sacrifie énormément de bovins, bœufs ou taureaux. Et donc le Christ peut être assimilé à un bœuf sacrifié. Tout cela, naturellement, entraîne des controverses, mais aussi des moqueries de la part d'une théologie plus ambitieuse, et à partir du XVIe siècle, de la part des théologiens protestants qui se moquent de ces débats et de cette espèce de culte rendu et au bœuf et à l'âne.
Cette attitude des protestants a pesé, vous le pensez, sur l'évolution des sensibilités catholiques à l'égard de la figure des deux animaux, de l'âne et du bœuf, un certain retrait à partir du XVIIe siècle ?
Oui, je crois que le regard protestant sur le catholicisme a exercé une grande influence dès le Concile de Trente, c'est-à-dire dès le milieu du XVIe siècle. La théologie catholique se méfie du culte des images, du culte des idoles ou de tout ce qui pourrait apparaître comme tel dans les pratiques catholiques. Et un divorce s'opère progressivement entre la théologie institutionnelle et savante, et puis les pratiques populaires. Et alors, à partir de la fin du XVIe siècle, on voit en effet des théologiens, mais aussi des évêques, condamner la mise en scène dans la crèche de ces deux animaux, estimant qu'ils n'ont rien à y faire. Ce faisant, d'ailleurs, la théologie rejoint au XVIe, mais surtout au XVIIe siècle, une certaine philosophie qui ne voit plus tellement dans les animaux des êtres vivants, cousins de l'homme, pourrait-on dire.
Et voilà Descartes.
Mais voilà Descartes, mais voilà Malebranche, c'est la théorie des animaux-machines. L'animal n'est plus tant un être vivant et surtout pas pensant, mais une machine très perfectionnée.
Rupture dans l'échelle des êtres.
Rupture considérable dans le regard porté par l'homme sur l'animal, qui n'est plus pensé comme un être souffrant, donc on peut lui faire tout ce que l'on veut, y compris le torturer. C'est une théorie qui naît lentement au début du XVIIe siècle et qui va perdurer jusque vers le milieu du XVIIIe siècle lorsqu'apparaissent les premières sociétés protectrices des animaux et donc un courant de pensée qui va dans l'autre sens. Il y a comme cela des mouvements de balancier. Mais donc au XVIIe siècle, cette attitude philosophique et théologique envers l'animal, l'animal-machine disons, fait qu'ils n'ont rien à faire dans la mise en scène de la nativité et on les voit peu à peu disparaître des crèches officielles.
Alors qu'auparavant, l'animal pouvait être un agent de Dieu. Dans les vies des saints, par exemple, on le trouvait guidé par Dieu, qui se mettait au service de ceux-ci. Je vois la biche qui nourrissait Saint Gilles au fond d'une forêt, ou le chien qui apportait du pain à Saint-Roch, qui était pestiféré et chassé par les hommes, tout ça bascule dans le passé à partir du XVIIe siècle.
Le point de départ, c'est le Concile de Trente, au siècle précédent, et ça s'accentue au XVIIe siècle. Désormais, le christianisme se méfie beaucoup des animaux, des histoires d'animaux. Et en effet, la géographie traditionnelle est remplie de saints qui ont pour compagnons des animaux, quadrupèdes, oiseaux et même parfois poissons. Il faut éradiquer tout cela et surtout ne pas confondre donc l'être humain conçu à l'image de Dieu et l'animal, soit créature impure, imparfaite, soit véritable machine.
Et c'est du même coup, comme conséquence, cette coupure que vous évoquez entre la religion populaire et la religion aristocratique, la religion telle qu'elle est prêchée en particulier par les grands prélats de l'Église à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle.
Oui, l'écart devient de plus en plus grand entre les pratiques populaires, qui continuent bien sûr pour la crèche de mettre en scène et le bœuf et l'âne, et la théologie officielle ou la théologie savante, qui font tout pour évacuer, au fond, les animaux de ces problématiques, non seulement de la nativité, mais aussi de la résurrection et du statut plus général de l'animal au sein du christianisme. Il y a là un divorce qui dure au moins un siècle et demi, parfois davantage, puisqu'on en dépend encore au XIXe siècle, avec le renouveau du catholicisme dans une large partie de l'Europe, on va retrouver une partie de ces problèmes entre des pratiques populaires qui n'avaient jamais complètement disparu et qui, c'est vrai, véhiculent certains reliquats de paganisme ou de pratiques très anciennes, et puis la volonté des théologiens de ne pas subir la critique des ennemis du catholicisme.
On ne trouve guère d'ailleurs de l'âne et le bœuf, si je comprends bien, dans les grands textes des plus célèbres prédicateurs du XVIIe siècle.
Non, et on ne les trouvera pas chez les théologiens du siècle suivant qui, en proie aux critiques des philosophes et des libertins, font tout pour éradiquer dans les textes et les pratiques du christianisme tout ce qui pourrait prêter à rire ou à dénoncer une certaine idolâtrie. Il faut attendre d'une part le mouvement romantique, de l'autre la recristianisation, pour avoir de nouveau des théologiens et surtout des prélats qui sont plus tolérants envers les pratiques populaires et pensent que la recristianisation des campagnes notamment a à gagner, à laisser faire ces pratiques qui viennent de loin. Et le bœuf et l'âne de la crèche sont concernés. On devient plus tolérant à partir des années 1820-1850. Et il y a un certain retour, au moins dans les églises de campagne et dans les villes de province, à l'échelle de l'Europe même, de ces deux animaux.
À cet égard, le retour en grâce, si je puis dire, de saint François d'Assise, qui parlait aux animaux, est frappant.
Oui, c'est un courant de sensibilité générale qui redonne sa place à l'intérieur du catholicisme aux animaux. Donc saint François prêchant aux oiseaux, son compagnon saint Antoine de Padoue prêchant aux poissons, et puis la mise en scène de saints traditionnels venus de la géographie du haut Moyen-Âge qui ont pour compagnon un animal, c'est Saint-Gall et son ours, Saint-Roch et son chien, c'est le corbeau nourricier au désert qui apporte du pain à Saint-Paul-Ermite et à Saint-Antoine, et bien d'autres. Le christianisme, touché par un courant de sensibilité renouvelée, voire de sensiblerie même, redonne peu à peu une certaine place à l'animal.
On trouve cela évidemment clairement dans l'histoire de la peinture, qui évolue beaucoup aussi, en particulier le grand peintre Lebrun au XVIIe siècle, se porte en avant dans les critiques de la présence de l'âne et du bœuf dans les crèches. Lebrun dit que ces deux animaux portent un caractère de brutalité au lieu qu'un sujet aussi divin ne devrait être accompagné que de figures et d'actions qui répondent à la sainteté du mystère. Ces deux animaux seraient contradictoires avec cette sainteté du mystère.
Oui, c'est une sorte d'épuration. Les animaux étant par essence quelque peu impurs, et spécialement ces deux-là qui n'ont rien de noble. Donc on est très loin de la théologie médiévale. Et au fond, Lebrun pense comme les philosophes de son temps, que les animaux non seulement sont impurs, mais sont des êtres ni pensants, ni même souffrants, de véritables machines.
Il est intéressant aussi de suivre l'évolution des crèches, qu'elles soient représentées par des statues ou qu'elles soient vivantes, par des acteurs. L'origine semble en être du côté de Naples.
Oui, et de l'Italie méridionale, et un certain christianisme populaire multiplie les représentations de la crèche. Ça commence très tôt, dès la fin du XIIIe siècle, en milieu franciscain justement, et chez les Clarisses particulièrement. Puis ça se développe à la fin du Moyen-Âge et d'Italie méridionale, le phénomène remonte très au nord dans toute l'Europe. Crèche représentée ou crèche vivante qui pose dans l'église un problème. Peut-on faire entrer dans les églises, lieux sacrés, des animaux? Et si oui, quels animaux? On en débat du XIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Les réponses ont été variées et rejoignent la question que nous nous posions tout à l'heure. Est-ce que les animaux sont enfants de Dieu? Est-ce que le Christ est venu sauver aussi les animaux en se faisant homme? Les débats sont parfois très très violents, les réponses contradictoires. Est-ce qu'au moment de Noël, on peut mettre un âne et un bœuf vivants dans la crèche qui se tient derrière le chœur, à la croisée du transept, enfin quelque part dans l'église? Ça pose un problème. Ce qui est intéressant, c'est que les critiques des protestants se dirigent particulièrement contre l'âne. Ils en ont plus envers l'âne qu'envers le bœuf. Et c'est un phénomène plus général. Ils se moquent également de l'âne des rameaux. Lorsque le Christ entre à Jérusalem, avant sa passion, il chevauche une ânesse. Ou bien ils se moquent de l'âne de la fuite en Égypte. Après la nativité, Marie et Joseph s'enfuient pour échapper au bourreau d'Hérode, qui veut tuer tous les enfants nouveau-nés. Et c'est encore une ânesse qui porte Marie et le jeune nouveau-né.
Contrairement à la pratique de ces civilisations, c'est généralement l'homme qui est sur l'âne et la femme qui suit à pied.
Oui, alors là, c'est le contraire dans l'histoire de Marie et Joseph, aussi bien pour l'arrivée à Bethléem que pour le départ et la fuite en Égypte. Marie est sur l'âne et Joseph suit quelque part. D'ailleurs, Joseph est un personnage qui est un peu gênant pour la nativité. Il est le père sans être le père et au fil du temps, on a hésité sur le statut à lui donner. La fin du Moyen-Âge est particulièrement cruelle avec Joseph. Dans la mise en scène, dans les images, on le représente comme quelque peu ridicule, ne regardant pas l'enfant nouveau-né, mais buvant de sa gourde dans un coin de l'image, ou bien comptant ses habits. Bref, c'est un personnage dont on ne sait pas trop quoi faire. Il faut attendre qu'il se revalorise, qu'il devienne un personnage important de l'Église au XVIe siècle, notamment sous l'influence des jésuites, pour qu'il trouve pleinement sa place dans la scène de la nativité.
Au XVIIIe siècle, il faut aussi faire entrer en compte l'importance de ceux qui écrivent sur les animaux. Je pense à Buffon, au premier chef, qui défend l'âne comme une sorte de cousin du cheval, à la fois humble et paisible. Et il écrit à considérer cet animal, même avec des yeux attentifs et dans un assez grand détail, il paraît n'être qu'un cheval dégénéré. La parfaite similitude de conformation dans le cerveau, les poumons, l'estomac, etc., etc., et la grande ressemblance des corps, des jambes, des pieds semblent fonder cette opinion. Mais le naturaliste défend néanmoins l'âne en disant « Mais non, il est certain par la révélation que tous les animaux ont également participé à la grâce de la création. » C'est là qu'on retrouve l'âne dans sa crèche.
Oui, c'est la magie de Buffon qui est à la fois un vrai zoologue au sens des Lumières et puis un homme qui est encore d'ancien régime pleinement, mais qui de temps en temps souligne les anciennes traditions et met en valeur ce qu'elles peuvent avoir de bon. En plus, Buffon, c'est une grande plume, c'est la plus grande plume du siècle et ça fait beaucoup pour la diffusion de ses idées, non pas tout de suite, mais dans les décennies qui suivent. On lit beaucoup Buffon après sa mort en 1787-88. Il a une influence sur le regard porté sur le monde animal, notamment dans les années 1820-1850, où il y a des Buffons illustrés, des Buffons abrégés et plus tard des Buffons pour enfants. À côté des grandes théories nouvelles de Lamarck ou de Geoffroy Saint-Hilaire, les idées de Buffon touchent le peuple et rejoignent au fond cette culture populaire de la crèche et de l'âne et du bœuf.
Et quant à l'âne, on le retrouve chez la comtesse de Ségur, chez Henri Bosco, chez Francis Jammes, considérés dans les trois cas de façon assez tendre. Ce qui nous amène à aujourd'hui, l'âne et le bœuf prennent une apparence qui est plus féerique que théologique.
Oui, et il y a une sensibilité nouvelle qui se développe à partir de l'époque romantique, en tout cas du deuxième mouvement romantique.
Jusqu'à aujourd'hui,
envers les animaux, et même une certaine sensiblerie. Le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, l'âne devient un animal presque de compagnie. On améliore les espèces, on essaye d'adoucir le caractère un peu difficile de l'animal, et un certain nombre de familles, notamment pour plaire aux enfants, lorsqu'on vit à la campagne, ont un âne ou des ânes. C'est quelque chose qui est relativement nouveau et qui fait écho à cette sensibilité nouvelle née dans le courant du 19e siècle chez les artistes et chez les poètes.
Animaux de compagnie plutôt qu'animaux servant le quotidien des travaux des champs. Un signe, c'est qu'il y avait 400 000 ânes au mi-temps du 19e siècle. Aujourd'hui, il n'y en aurait plus que 35 000.
L'âne n'est plus un animal qu'il travail, comme c'était le cas pendant des siècles et des siècles. Un animal qui porte, qui tire, qui passe là où le cheval ne passe pas. Un animal également qui se contente de fort peu, qui est très sobre. C'est d'ailleurs vrai aussi du bœuf. Le bœuf qui tire la charrue passe là où le cheval ne passe pas. Mais ces deux fonctions ont disparu. Ni le bœuf, ni l'âne, sauf exception, ne travaillent dans les campagnes de l'Europe occidentale. Donc le regard porté sur eux est un peu différent. Le bœuf fournit de la viande, mais l'âne est devenu une sorte d'animal de compagnie, en effet, d'où, d'une part, sa raréfaction, puisqu'il ne sert plus à grand-chose, mais également ce regard nouveau que l'on porte sur cette créature qui a tant souffert au fil des siècles.
Je pense que nos auditeurs et nos auditrices auront du coup un regard plus aigu sur ces crèches telles qu'elles apparaissent devant chacun en cette période de Noël. Alors maintenant, Michel Pastoureau, je voudrais que nous en venions au deuxième moment de cette conversation consacrée aux animaux de Noël, en parlant de ceux que l'on mange, ce qui est évidemment une nature différente. Et je vais peut-être vous surprendre avec cette archive qui remonte au 23 décembre 1969.
Enfin, maintenant, quelque chose d'insolite et qui va sans doute heurter un certain nombre d'entre vous. Mais il s'agit d'une tradition de Noël que Daniel Saint-Amand, l'un de nos reporters, a découverte. Une tradition un peu cruelle, il faut bien le dire. Dans certains villages autour de Belfort, on mange un chat, oui, un chat, le 24 décembre au soir. Et l'un des hommes qui sacrifie à cette tradition l'a confirmé à Daniel Saint-Amand.
Alors là, chez lui-même, je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'une vingtaine de familles facilement.
Est-ce que ce sont des chats que vous élevez ou que vous capturez dans la rue, que vous consommez le soir de Noël ?
Ah, ce ne sont pas des chats sauvages, ce sont des chats domestiques qui sont... On choisit d'ailleurs les plus gros, uniquement les mâles, je précise bien uniquement les mâles, parce que la femelle ne paraît-il pas bonne à la consommation. Lorsqu'on a des invités et qu'on ne veut pas leur faire voir vraiment que c'est du chat, on leur reprend seulement à la fin du repas, mais alors on ne serre pas les côtes. C'est le seul moyen de reconnaître, de différencier le chat du lapin, sur les côtes.
Cela se fait, je crois, dans plusieurs villages autour de Réchésy, par exemple à Dell également, ou à Peterhausen. Ou...
Je pense que ça s'arrête quand même à la frontière chez moi, qui est à 3 km, il s'agit de la Suisse. Je pense que là, ça s'arrête. Donc ce serait un truc bien particulier donc, au territoire.
Hein. Allez-vous manger un chat demain soir ?
Ah, bien sûr. D'ailleurs, je compte aller chez moi demain soir, et le chat, je sais qu'il sera prêt, je serai là pour le déguster.
On dit des goûts et des couleurs. Alors, de toute façon, un conseil pour ceux d'entre vous qui habitent aux environs de Belfort, gardez vos chats au chaud.
Je sens, Michel Pastoureau, que nous allons recevoir des messages du territoire de Belfort. Je vous ai vu surpris. Vous ignoriez cette pratique, vous qui savez tout sur l'histoire des animaux ?
Oui, j'ignorais cette pratique et je suis surpris qu'elle soit encore si récente. L'archive n'est pas tellement ancienne.
69.
Oui, 69. Donc, moi, j'avais déjà plus d'une vingtaine d'années. Je n'ai jamais mangé de chat. Et en historien, je sais que c'est un tabou, dans les sociétés occidentales en tout cas, qui est extrêmement fort. Quand les missionnaires chrétiens vont évangéliser en Germanie, par exemple, au 7e, 8e siècle de notre ère, ils constatent que les barbares, les germains, ont des pratiques alimentaires épouvantables. Et ils écrivent au pape pour dire « on ne peut pas tout interdire, qu'est-ce qui est prioritaire parmi les animaux qu'il ne faut absolument pas manger ?» Et les trois priorités qui reviennent constamment, ce sont le corbeau, le renard et le chat.
Quittons le chat, si vous voulez bien, comme mets très rare, en fait, dans notre civilisation. Et venons-en aux cochons, à l'oie et à la dinde. Et d'abord, évidemment, aux cochons.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon.
Désormais, je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson.
C'est bon.
Répétons sur ces airs polissons. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon,
c'est bon.
Je pourrais dire bien des choses sur son talent. Il a la couleur des roses sans leur piquant. Et puis quand on a terminé les bons morceaux, reste de quoi faire des souliers et des pinceaux.
Et ça c'est beau.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon, c'est bon,
c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson.
Qui c'est qui est
bon?
Qui
c'est qui est bon? C'est le cochon,
c'est bon.
En ces temps de régime allégé, la résistance passe par le gobage effréné, driette du Mans. C'est une drogue, une friandise, à un tel point qu'on en planque dans les valises, comme Jean Gabin.
C'est bien.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon,
c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon,
c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon,
la, la, la,
le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon,
c'est bon.
Le cochon est tellement sage qu'en son honneur, je vous délivre un message qui vient du cœur. Battons-nous pour les droits de l'homme avec raison, puisqu'on dit souvent que les hommes sont des cochons.
2, 3, 1, 12.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon.
C'est bon,
c'est bon, c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon,
c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cette terre pollution.
C'est bon, c'est bon,
c'est bon. Qui est bon, c'est le cochon.
C'est bon.
Je ne doute pas un instant que vous avez reconnu la chanson de Juliette, une chanson de 1995 interprétée ici en 2004, « Tout est bon dans le cochon ». Et en passant, vous avez salué l'allusion à la traversée de Paris, le film illustrissime de Claude Autant-Lara, avec Jean Gabin qui est nommé, mais aussi avec Bourvil, Louis de Funès, etc.
Pour l'historien, le cochon est un animal vedette. Quand on s'occupe des sociétés occidentales, c'est un des piliers de l'alimentation, et notamment de l'alimentation carnée. C'est aussi un animal omniprésent dans la vie des campagnes, mais aussi en ville, presque jusqu'au XIXe siècle.
Avec une image très, très ambivalente.
Et avec une image très ambivalente, il y a une sorte à la fois d'attrait et de rejet. Il y a les bons et les mauvais aspects, c'est vrai, de nombreux animaux, mais pour le cochon, il est non seulement ambivalent, mais presque ambigu, pourrait-on dire.
À la fois bête immonde et compagnon du saint, par exemple. De Saint-Antoine.
Oui, c'est une bête immonde qui se nourrit d'ordures, de cadavres, qui mange dans des lieux épouvantablement sales et en même temps qui fournit une viande qui est délicieuse. Certains théologiens, d'ailleurs au Moyen-Âge, s'interrogent sur ce grand écart entre le comportement et la saleté de l'animal et les produits qu'il fournit, qui sont extrêmement nombreux, pas seulement la viande et tout ce qui s'y rattache.
Tout mais est bon.
Tout est bon, comme le chant de Juliette. Dans le cochon, les soies, les entrailles, même les dents avec lesquelles on fait un certain nombre de petits objets, et puis surtout les os que l'on récupère pour faire de la colle pendant très très longtemps. Ça explique d'ailleurs pourquoi, lorsque les archéozoologues fouillent le sol, ils trouvent souvent moins d'ossements de porc que de bœuf ou de moutons, et on en conclut un peu rapidement que pendant assez longtemps en Europe on mangeait plus de bœufs et de moutons que de porcs, mais ce faisant ils ont oublié que tout est bon dans le cochon, on récupère même les os, et avec les os on fait beaucoup de choses, notamment de la colle. Oui.
Et on n'a pas cessé de s'interroger sur la contradiction entre ce caractère extraordinairement précieux d'un animal qui peut être d'une certaine façon le plus proche à tant d'égards de l'homme, d'un point de vue physiologique, et en même temps, qui est cette bête immonde que nous disions. Un texte anglais de la fin du XIIe siècle en fait un portrait qui est presque archétypale, en expliquant qu'il regarde toujours vers le sol et qu'il ne lève jamais la tête vers le Seigneur. C'est pourquoi il est l'image de l'homme pécheur qui préfère les biens de ce monde aux trésors du ciel. Bien qu'il ait l'ouïe fine, le verra n'entend pas la parole de Dieu, mais préfère écouter les appels incessants de son ventre. Fin de citation. C'est un peu le cas d'un certain nombre de ceux qui font ripaille à l'occasion de Noël.
Voilà, le cochon est omnivore. Il n'y a pas tellement d'animaux omnivores. Le cochon, l'ours, le renard, le corbeau, et puis l'être humain, qui mange aussi beaucoup de choses différentes, et notamment du cochon. Et traditionnellement, dans la vie des campagnes, on tue le porc un peu avant Noël, et on fait bombance au moment de la nativité, dans les jours qui suivent. On le tue à ce moment-là parce que le porc, à l'automne, est conduit en forêt pour se nourrir de faine et de glands.
Il est meilleur, du coup ?
Il est meilleur, il adore ce type de nourriture qui lui donne un goût particulier. Dans les régions où il y a des châtaigniers, ce sont les châtaignes qui lui donnent une saveur particulière. Mais les règlements, partout, au fil des siècles, tendent à réduire cette fréquentation des porcs dans les forêts où il faut beaucoup de dégâts. Et alors, on limite le calendrier à partir du 30 novembre, au jour de la Saint-André. Les cochons doivent sortir des bois et des forêts. Ils sont bien gras, c'est pour ça que c'est le bon moment pour les tuer. L'hiver arrive et on va manquer de nourriture. Donc on tue le cochon quelque part au début de décembre ou dans le courant de décembre.
C'est la tue-cochon.
C'est la tue-cochon qui, dans la vie des campagnes, est un jour très particulier et presque sacré. Ça se situe à différents moments, selon les époques et selon les latitudes. Le rituel est un peu toujours le même, il y a un spécialiste qui est le tueur de cochons, le tueur, personnage que l'on craint, et qui vient égorger l'animal. Il faut aussitôt recueillir son sang pour fabriquer des boudins. En général, c'est le rôle des femmes, d'ailleurs, de recueillir le sang. Et puis ensuite, le laver, le débarrasser de ses soies, récupérer ses entrailles. On va faire toutes sortes de choses, pas seulement des charcuteries. Les vessies de porc, par exemple, pendant des siècles, ont été des récipients hermétiques dont on se servait pour contenir parfois des produits précieux, comme les pigments destinés aux peintres.
Le sang a servi au boudin.
Le sang sert à faire les boudins. Et puis avec le reste, comme on sait, on fait des saucisses. C'est aussi l'occasion de manger de la chair fraîche. Dans les campagnes d'Europe, pendant longtemps, on ne mangeait que de la viande fumée, séchée, salée. Avec la tue-cochon, on a pendant quelques jours, quelques semaines, de la viande fraîche. Et on en mange beaucoup. Et tout cela s'accompagne naturellement de fêtes, ripailles, mais aussi danse, musique, jeux, transgressions de toutes sortes. C'est la Saint-Cochon qui suit la tue-cochon.
Sur la permanence de ces comportements et de ces pratiques, écoutez cet entretien avec un paysan qui explique comment on tue le cochon. Nous sommes en 1989, c'est un extrait des Nuits magnétiques de Monette Berthommier.
Chez nous, maintenant, on tue le matin. Et jusqu'à midi, on le tuait, l'échaudait, le pelait, et le vidait et lavait les boyaux. On lave les boyaux tout de suite et après on mange à midi. Et on recommence chez nous à le dépecer. Mais ça, c'est la méthode nouvelle. Autrefois, c'était pas ça. On faisait ce que j'ai dit jusqu'à midi. Après-midi, généralement, on faisait le boudin, cette affaire. Et on ne commençait de le dépecer que le lendemain, quand la viande était froide. Mais maintenant, on n'a pas le temps, alors on le fait tout de suite.
Oui, mais moi, je l'ai tué quelqu'un pour et j'ai vu à faire. Et je ne crois pas que ce soit bon de tuer le porc et de le couper le même jour. Oui. D'ailleurs... La viande, elle est davantage humide, elle coule, elle s'écoule automatiquement, la viande.
Elle est plus facile à découper quand elle est froide.
Oh, oui.
Elle est ferme.
C'est une question d'habitude.
Oui.
Parce qu'il y a encore des coins de la Haute-Garonne, chez des cousins de la Haute-Garonne, qui ne le coupent que le surlendemain même.
Ah bon?
Et oui, il le tue aujourd'hui. Jusqu'à midi, ils font le nettoyage du porc, boyau.
Oui.
Le soir, quelquefois, ils font le boudin, sinon ils ne le font pas. Oui. C'est une journée de mangeaille. Il faut dire, une fois qu'on a tué le porc, qu'on a fini de le préparer, le vider, quoi, on mange tout l'après-midi, on s'amuse de façon à passer un bon après-midi.
Oui.
Et puis le lendemain, on attend. Et le troisième jour, alors ils dépècent le porc. Ils font tout ce qu'il y a à faire, que ce soit la saucisse, le saucisson et ainsi de suite. Ils graissent et tout. Alors ils font la graisse et tout. Normalement, avec la femme de la maison, ils font la graisse et tout, le confit, tout ce qu'il y a à faire.
Le cochon très présent, deux écoles, hein, apparemment, qui divisent deux familles, de ceux qui attendent deux jours, ceux qui découpent tout de suite.
Oui, dans les sociétés traditionnelles, l'usage est quand même d'attendre. On tue, on lave, on retire les entrailles, mais la découpe de la viande proprement dite, qui est une affaire savante, se déroule quelques jours plus tard. En effet, quand la viande a refroidi et qu'elle est plus facile à trancher, à
découper. Et c'est là qu'intervient le festin.
C'est là qu'intervient le festin. Enfin, il dure plusieurs jours, une bonne semaine, voire une dizaine de jours. Ce qui est frappant, c'est que les rôles sont extrêmement bien distribués. Ce que font les femmes, ce que font les hommes, parfois ce que font les enfants. Les femmes ont des rapports très proches avec les cochons. Dans la vie des fermes, pendant très longtemps, le cochon est nourri par les femmes, comme la volaille d'ailleurs. Et donc une certaine affinité, complicité, affection peut-être, s'installe entre la fermière et le cochon. Et le moment de la tuerie est un moment extrêmement douloureux, d'autant que le cochon est un animal à la fois sensible et presque affectueux. Aujourd'hui, il y a des cochons d'appartement, des cochons de compagnie.
Paris, oui.
Pas à Paris, mais aux États-Unis. On a créé des races de cochons nains aux États-Unis et au Canada. Et donc, c'est un animal de compagnie qui peut apporter de très grandes joies. Le cochon, qui est une sorte de cousin de l'homme du point de vue biologique, il est très proche. Il faut rappeler que le pourcentage d'ADN commun entre l'homme et le porc tourne autour de 95%. Et pour les grands singes, de 96 ou 97%. Donc la différence n'est pas très grande. D'ailleurs, la médecine contemporaine, comme les médecines anciennes, emprunte énormément aux cochons de produits, d'organes, de peau pour faire des greffes. L'insuline, pendant longtemps, a été de l'insuline de porc et ainsi de suite.
On ne peut pas dire la même chose quant à l'ADN, admirer la transition, de l'oie et de la dinde, deux animaux qui ont plus d'importance encore aujourd'hui sur la table des réveillons et sur lesquels je voudrais que nous nous arrêtions un instant.
Oui, aujourd'hui, on ne mange plus tellement de cochons le jour de Noël, c'est beaucoup trop banal. Donc on mange des volailles de luxe. On le faisait déjà dans les sociétés anciennes, mais pendant longtemps, c'était l'oie qui était à l'honneur. On choisissait la plus grosse des oies de la basse-cour pour en faire un plat de fête.
Chez les Romains déjà, les fameuses oies du Capitole qui ont prévenu de l'arrivée des Gaulois étaient destinées à être consommées, vous pensez ?
Non, au contraire, elles étaient honorées et pour les remercier d'avoir donné l'alerte au IVe siècle avant notre ère de l'invasion nocturne des Gaulois dans ce terrain sacré qu'est l'enceinte du Capitole, là où se trouvait le temple le plus valorisé, celui de Jupiter, Junon et Minerve. Les oies avaient donné l'alerte alors que les chiens dormaient. Et donc on a honoré les oies dans la Rome antique, non seulement sous la République, mais même pendant tout l'Empire. Ce jour-là, on les transportait dans toute la ville, on les gavait. On aimait les oies chez les Romains, et d'ailleurs au Moyen-Âge aussi, c'est un animal qu'on ne considère pas comme stupide, mais au contraire comme intelligent, affectueux. On élève beaucoup d'oies, peut-être plus d'oies que de poules pendant longtemps. Au Moyen-Âge, on mange davantage de d'oies que de poules. Et donc, le jour de Noël, une très belle oie est présente sur la table jusqu'à ce que la dinde vienne lui faire concurrence.
Comment est arrivée la dinde ? Elle est arrivée d'Amérique ?
Oui, c'est un oiseau américain, d'Amérique centrale. Je crois que les premières dindes sont arrivées en Espagne dans les années 1520-1525.
Grand succès immédiat.
Grand succès immédiat, c'est une grosse volaille et qui a, au fond, cette qualité d'être exotique. L'oie, évidemment, était devenue banale. Et alors, progressivement, pas tout d'un coup, mais dans les banquets princiers et royaux, on commence à manger de la dinde. Je crois qu'en France, c'est pour le mariage de Charles IX, que la première dinde a été consommée dans un rituel festif.
C'est-à-dire à peu près ?
On est vers 1570-71, avant la Saint-Barthélemy. L'usage se répand de faire l'élevage des dindes pour obtenir les plus gros oiseaux possibles. Et je crois que c'est à partir de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle que la dinde commence à faire concurrence à l'oie pour le festin de Noël. La substitution se fait lentement, mais c'est vrai que Aujourd'hui, évidemment, la dinde est bien plus fréquemment consultée, sollicitée pour être présente sur la table. Il est vrai que la viande de l'oie est plus grasse. Le maigre et le gras sont peu différenciés dans l'oie, alors que chez la dinde, le gras et le maigre sont très séparés. La dinde est même très fortement maigre. Donc on a beaucoup de bons morceaux. Évidemment, on en a fait un tellement grand usage qu'elle s'est banalisée. Et aujourd'hui, on va rechercher ce qu'on appelle des volailles à l'ancienne, le chapon ou la poularde, pour remplacer la dinde qui elle-même avait remplacé l'oie.
Elle était déjà célébrée par Offenbach dans une fameuse opérette qui s'appelait La Créole, 1875. Écoutez cette interprétation de Philippe Pistol en 1991, La poularde à la créole.
La poularde était de taille, elle venait du Mans. Tu dis la belle volaille et quel contour charmant. D'un beau jaune elle était peinte, nous la mangeions des yeux, en nous versant une pinte d'un chambertin très vieux. La bonne poularde, le bois d'air à goût, ah, pourvu qu'on en garde un petit morceau pour nous. La bonne poularde, le roi des ragoûts, ah, pourvu qu'on garde un petit morceau pour nous. Ortolans, cailleuses et grives, tous en dessous dessus, truffes, champignons, olives qui baignaient dans leur jus. Ça sentait de la cuisine, des parfums de grand choix. Ça vous avait une mine à s'en lécher les doigts. La bonne poularde, le roi des ragoûts, ah, pourvu qu'on en garde un petit morceau pour nous. La bonne poularde, le roi des ragoûts, ah, pourvu qu'on garde un petit morceau pour nous.
Vous êtes disposé, Michel Pastoureau, à laisser la liberté à nos auditeurs et nos auditrices de consommer le type de plat traditionnel qu'ils voudront?
Oui, naturellement. Moi-même, je préfère le chapon à la dinde. Et donc, j'espère que mon épouse me fera du chapon pour Noël.
Ah, je vois que la répartition des rôles se maintient traditionnellement.
Oui, les femmes au fourneau et les hommes consommateurs.
La dinde, no comment, je ne vais pas prendre de risque. La dinde a une place spécifique aux États-Unis d'Amérique, notamment à l'occasion de Thanksgiving, qui est une fête qui est rattachée à l'arrivée des premiers pionniers.
Oui, on est quelque part 2 mois avant Noël et à partir de 1621, si je me souviens bien, en effet, pour rendre grâce au Seigneur et pour aussi se réconforter, les premiers émigrants ont célébré cette arrivée sur le sol du Nouveau Monde en mangeant deux plats traditionnels, devenus traditionnels, la dinde et la tarte au potiron. Et c'est une pratique qui a perduré donc jusqu'à aujourd'hui.
Traditionnellement, on dit que le président des États-Unis gracie une dinde pour marquer que la liberté de ces animaux demeure leur chance d'éventuellement survivre.
D'ailleurs, les chefs d'État ont des rapports parfois étranges avec les oiseaux et la volaille.
Allons bon, comment ?
La reine d'Angleterre, par exemple, on ne le sait pas souvent, mais la reine d'Angleterre, Elisabeth II, aujourd'hui encore, est propriétaire de tous les cygnes présents dans le Royaume-Uni. Ils lui appartiennent. Oui, et c'est une tradition qui remonte au cœur du Moyen-Âge.
Donc elle s'oppose absolument à ce qu'on les consomme sur les tables de Noël.
Oui, tout à fait. Il ne faut pas manger de cygne, c'est d'ailleurs un grand tabou, comme le chat que nous avions évoqué tout à l'heure.
Voulez-vous que nous terminions sur un autre animal, peut-être moins individualisé, qui est l'huître, puisqu'il y aura beaucoup d'huîtres sur les tables dans 2 ou 3 jours.
Oui, beaucoup d'huîtres seront sacrifiées. Ça n'est pas récent de manger des huîtres. Les Romains le font déjà, ils en raffolent.
On trouve déjà des coquilles dans les fouilles qu'on peut faire autour des grandes villas, par exemple, du côté de l'actuelle Aquitaine.
Oui, dans la Gaule romaine, on mange des huîtres. Un certain nombre d'auteurs, d'ailleurs, nous signalent qu'il y a déjà ce qu'on pourrait appeler des parcs à huîtres et de l'élevage. Puis, cela se fait plus rare au Moyen-Âge, où il faut vraiment habiter sur les côtes pour manger des huîtres, et c'est une nourriture plutôt populaire. Mais vers la fin du Moyen-Âge, et surtout au début de l'époque moderne, l'huître devient à la mode. Et alors le problème, évidemment, est de l'acheminer pour qu'elle reste consommable depuis le bord de mer jusque dans les grandes villes.
Ah, comment fait-on ?
Alors, ce sont des relais, des diligences, des chevaux. C'est la marée, comme l'on dit, qui doit arriver à Paris, à Versailles, au XVIIe siècle. Le célèbre cuisinier Vatel s'est suicidé parce que la marée n'était pas arrivée à temps. Et cette marée, au cours de ce repas princier, c'était à la fois des poissons et des bourriches d'huîtres, en quelque sorte. Donc, on en mangeait déjà beaucoup à la table des princes, au XVIe, au XVIIe, encore au XVIIIe siècle. Et puis le chemin de fer a changé beaucoup les choses à partir des années 1830-1850. Les huîtres arrivaient beaucoup plus rapidement dans les grandes villes. Et ça a fini par épuiser les huîtres sauvages, en quelque sorte. Et c'est à partir de ce moment-là, conséquence du chemin de fer, donc, que l'on a créé ou recréé des parcs à huîtres et des huîtres d'élevage, d'abord dans le bassin d'Arcachon, puis les côtes de la Charente, et puis un peu partout, en différents points d'Europe, y compris donc notre Bretagne.
Et le lien avec Noël et le jour de l'an est ancien ou récent ?
Il est déjà bien marqué dans la seconde moitié du XIXe siècle. Auparavant, c'est plutôt un mai lié au banquet, au festin, comme sous Louis XIV, mais pas spécialement Noël. Et puis, quand le prix des huîtres baisse, qu'elles deviennent relativement faciles d'accès pour les habitants des grandes villes, on la réserve aux grandes fêtes de l'année, et notamment Noël. Je pense que c'est un peu avant la Première Guerre mondiale qu'elles deviennent très abondantes sur les tables le jour de Noël, un peu partout en France et dans les pays voisins.
Eh bien, nous allons souhaiter un très bon appétit à nos auditeurs pendant les jours qui s'annoncent. Je voudrais, Michel Pastoureau, en vous remerciant de votre présence à cette émission, citer plusieurs de vos ouvrages. D'abord, « Les animaux célèbres », publié chez Bonneton en 2002. Célèbre pourquoi ?
Célèbres par les traces qu'ils ont laissées à la fois dans la légende et dans l'histoire. C'est une sélection de 40 animaux, depuis le serpent de la Genèse ou le cheval de Troie, jusqu'à Milou et quelques autres plus contemporains.
Vous avez donné aussi des bestiaires du Moyen-Âge au Seuil en 2011. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'un bilan sur ce que nous racontent ces textes particuliers que sont les bestiaires, c'est-à-dire des textes qui parlent d'animaux au cœur du Moyen-Âge, à la fois sous l'angle de ce qu'on appellerait nous l'histoire naturelle, mais aussi l'histoire symbolique et religieuse. Donc j'ai fait un bilan de ce discours très abondant et qui a des influences très grandes sur la création artistique, sur les proverbes, sur les croyances, bien au-delà du Moyen-Âge.
Nous avons aisément discerné pendant cette émission, Michel Pastoureau, que vous aviez pour le cochon une dilection particulière. Eh bien, vous avez consacré au cochon un ouvrage de la fameuse collection Découverte chez Gallimard, que vous avez tout récemment réédité dans un format plus ample, toujours chez Gallimard, cette année 2013. Je voudrais aussi rendre hommage à un article sur lequel nous avons fait fond, l'article d'Éric Baratet qui s'appelle « Les animaux du Christ, le bœuf et l'âne dans la nativité » du XVIIe siècle à nos jours. Il a été publié dans les cahiers d'histoire en 1989. La bibliographie est bien sûr plus riche et vous pourrez y accéder aisément sur notre site et y trouver aussi les références des documents sonores que nous avons utilisés, documents parlés ou bien chansons. Et vous pourrez également écouter, réécouter, télécharger cette émission et la garder pour la réentendre dans l'avenir de Noël en Noël. Samedi prochain, nous resterons dans la saison puisque nous parlerons de l'inévitable hiver avec comme invité François Walter. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec aujourd'hui à la prise de son Éric Boisset, avec à la discothèque Romain Couturier, et je remercie aussi Anne Brulant pour les archivinas. « Dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque samedi, Dominique Rousset, à qui je passe le témoin, Dominique Rousset, pour l'économie en question.